Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau Weekly News. Nous sommes le lundi 10 septembre et au sommaire de ce 9e numéro, les chiffres de vente du mois d'août qui sont tombés, avec aussi une grosse analyse sur les chiffres de progression de décès depuis le mois d'août 2011. On continuera avec le casting d'Avengers qui a été révélé, les teasers pour la deuxième vague de titres Marvel Now, et bien sûr la Baltimore Comic Con qui s'est passée ce week-end avec les annonces et aussi le résultat des Harvey Awards qui ont été révélés lors de cet événement. Dans la partie Screen News, nous vous parlerons du nouveau projet Wonder Woman, d'un film sur Lobo et de bien d'autres choses encore. Je suis Steve et vous écoutez le Weekly News. Avec moi cette semaine pour commenter l'info, King Ed.
Ouais, salut à tous.
Et Sam.
En caleçon.
Vous deux, vous êtes en caleçon.
Ah, il fait chaud.
Et oui. Moi, je reste habillé au cas où il y aurait de l'image.
Oui, mais c'est notre nouveau concept d'émission, on enregistre en sous-vêtements. Ouais. Avant, on enregistre à poil.
On va peut-être éviter.
Clean City, le premier podcast nudiste. Eh bien, messieurs, quoi de neuf pour cette semaine?
Alors, moi, un petit quoi de neuf par rapport à ce week-end où j'étais à Biarritz et j'ai pu voir dimanche soir un ballet sur la plage. Donc, qui était organisé dans le cadre d'un festival et c'était juste superbe. C'était les danseurs avec la musique classique face à la mer. C'était un moment assez exceptionnel. Donc, c'est la troupe Malandin de Biarritz. Et sinon, autre petite chose, WhatsApp, c'est
juste une petite question. Est-ce qu'ils ont interprété une œuvre connue ou
Oui, il y avait quatre tableaux, dont le Boléro de Ravel, par exemple,
du classique.
Et, voilà, mais franchement, c'est des artistes qui sont vraiment très doués. Et c'était superbe, surtout le cadre, en fait. Donc, ouais. Et puis il y a énormément.
C'est toujours superbe.
Voilà, il y a énormément de monde qui est venu en plus, donc ça permet un peu à tout le monde de découvrir le ballet. Et,
c'est vrai qu'en même temps, un ballet sur la plage, c'est un petit peu insolite, quoi.
Et gratuit en plus, donc.
Oui, en plus.
C'était plutôt classe. Et autre petit coup de cœur là, c'est la sortie d'un album que j'attendais depuis très très longtemps, le nouvel album de The XX, qui est sorti aujourd'hui, que j'écoute en boucle déjà depuis plusieurs jours parce qu'il l'avait.
Je savais que t'étais fan de porno.
Non, c'est pas du porno. C'est The XX et c'est peut-être l'un des meilleurs groupes de ces dernières années. C'est juste énorme. Donc achetez-le, c'est Coexist, leur nouvel album. Voilà.
Ok, ben pardonne-moi si je ne le prends pas. Je pense que ça ne rentrera pas dans mes goûts.
Je pense pas que ça te plaise. C'est pas trop métal.
C'est quel genre?
C'est plutôt doux, un peu pop, limite un petit peu d'électro aussi sur le dernier album. Donc
oui, clairement, donc c'est pas pour moi.
De Steve.
C'est clairement pas pour moi. Pop électro, c'est pas pour moi du tout.
Faut être obtus, Steve.
Ah, je ne suis pas obtus, mais le métal est le style le plus ouvert qui soit. Hein.
Oui.
Ah oui, bah écoute du métal, tu verras que toutes les influences y passent, toutes. Il y a pas une
pas un type pendant de musique.
Alors là, tu peux pas faire plus cliché, Sam. Tu ne peux pas faire plus cliché. Écoute, je t'encourage à écouter du Maiden, tu verras si c'est un mec qui hurle. Et ça, c'est vraiment pour prendre une grosse référence, mais il y en a des dizaines et des dizaines comme ça. Ça y est, tu veux que je m'énerve, comme si je n'étais déjà pas assez énervé.
Tu fais son troll. Et toi, Steve, alors, t'as fait quoi de beau ce week-end?
Moi, ce week-end, ça a été déjà un week-end de repos, après mon stage à la radio, là, de 2 semaines. Et puis surtout, je me suis tapé une nuit quasi blanche, cette nuit, où j'ai regardé pas mal d'épisodes de la nouvelle série Green Lantern. J'avais regardé le pilote au moment où il était passé, il y a de ça quelques mois.
Ouais.
Et puis là, ils sont diffusés sur France 4 en ce moment, et j'en ai regardé quelques-uns. Il s'avère en fait que la série n'est pas mal du tout. Alors bien sûr, elle est complètement étrangère au concept de Green Lantern classique. Hein. C'est vraiment la bagarre.
c'est le cas. C'est la bagarre.
C'est la bagarre entre Hal Jordan accompagné de Kilowog face à Atrocitus à l'autre bout de la galaxie dans des secteurs inexplorés de la galaxie où il y a quand même des Green Lantern, va comprendre. Bon, il y a quelques entorses faites à la mythologie classique, mais finalement, il y a quand même beaucoup de choses aussi qui sont des bons clins d'œil avec des références à ce que l'on connaît quand on connaît un petit peu l'univers. Et finalement, c'est pas mal du tout. Les choses se mettent bien en place petit à petit et c'est assez encourageant. Jusqu'à présent, j'ai vu 6 ou 7 épisodes, quelque chose comme ça, et je vais continuer de regarder la saison parce qu'elle est vraiment très très bien foutue.
Et il y a les 4 Green Lantern dedans ou juste Hal Jordan?
Hal Jordan accompagné de Kilowog.
Donc il n'y a toujours pas Simon Baz non plus.
Ah non, mais faut pas rêver, il y sera pas là. Il y sera pas du tout. Non, mais c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître de Green Lantern. Alors c'est vrai que ça m'avait choqué au départ, mais finalement, en étant parti sur autre chose, ils peuvent se permettre plus de délire. Et juste comme ça, on voit passer des choses comme Saint Walker ou Mogo, par exemple.
D'accord.
adapté d'une autre façon, mais plutôt pas mal fait. Donc assez surpris, j'avais pas grand chose à faire hier soir, et puis ça m'a bien tenu en haleine.
Bon, mais c'est cool.
On va commencer avec le gros sujet de la semaine, ce sont les chiffres de vente qui sont tombés, chiffres de vente pour le mois d'août. Alors, pas de grosse surprise, on pouvait s'y attendre, malheureusement, AVX 9 et 10 sont encore en tête.
Ouais. On se demande bien pourquoi, mais bon...
C'est assez étrange que le public suive à ce point...
Ça se vend toujours beaucoup plus que les autres titres, franchement. Ouais.
C'est ça, non mais bon, au moins Marvel aura raison quand il dira, bah voyez, ils veulent des crossovers les gens, bah ouais.
Les gens qui ont commencé vont jusqu'au bout, quoi. C'est un peu ça. Après, je sais pas s'ils apprécient ce qu'ils lisent, mais ils se disent, on a envie d'avoir la collection complète de...
Non, mais ça, c'est vraiment un truc que je comprends pas. C'est-à-dire, des gens qui disent qu'ils n'aiment pas, mais qui continuent à lire.
Bah, nous, c'est notre cas, mais on a un cas particulier, puisqu'on fait des reviews, quoi. Mais...
Bah, non, moi-même pas. Hein. Les trucs que j'aime pas, j'arrête de lire, hein. Pas me prendre la tête, ni dépenser de l'argent pour des trucs que je n'aime pas.
Hein. Les AVX, je les fais simplement parce qu'il faut bien qu'on les review, quoi.
Ouais.
Moi, je les fais parce qu'on se marre bien. Après.
Je sais pas si on se marre ou si on s'arrache les cheveux, quoi.
Non, mais par exemple, le AVX versus 5, qui a quand même provoqué divers commentaires hilars parmi nous, il est septième, hein, le truc.
Ouais, septième.
C'est horrible, ça. Horrible.
Là, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi.
On va donner le top 10, on a AVX 9, AVX 10, après Batman, Justice League, Amazing Spider-Man 692, Rorschach, AVX versus 5, Dr. Manhattan et Green Lantern, et enfin Detective Comics.
Alors pour les titres d'essai, ce sont les numéros 12, hein, puisque c'est le 12e mois. Quant aux deux Before Watchmen, ce sont tous les deux des numéros 1. Ça explique aussi peut-être pourquoi elles sont si haut classées dans le top.
Et je pense que c'était peut-être ceux qui étaient le plus attendus avec deux duos d'artistes à chaque fois.
Oui, puis les personnages les plus populaires, je pense aussi.
Ouais, parce que quand on regarde les Before Watchmen qui se trouvent ensuite, on a Nighthawk numéro 2 qui se trouve 22e, Ozymandias 2 qui se trouve 25e et Minutemen numéro 3 qui se trouve 26e.
C'est quand même pas mal, hein, pour des numéros 2.
C'est bien, mais c'est vrai que je pense que c'est peut-être ces places numéro 1 sont des places artificielles de par le fait que ce sont ça des numéro 1. Simplement. Oui. On a le Green Lantern Annual numéro 1 qui se classe 12e, ce qui est pas mal. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre à mieux, mais il faut penser qu'il est sorti en fin de mois.
Il coûte $5 aussi. Hein.
Il coûtait $5, mais il a surtout eu une seule semaine pour pouvoir être vendu.
En général, les épisodes qui coûtent plus cher comme ça se vendent toujours un peu moins que la série régulière.
Ouais, mais je pense qu'il fera à peu près pareil que la série régulière, parce que c'est comme c'est la suite.
Voilà,
les gens qui lisent Green Lantern, s'ils veulent la suite de leur histoire, il faut qu'ils lisent l'annuel, quoi.
Ah, on peut clairement pas passer du numéro 12 au numéro 0. Là, ça passe pas. Ouais. Et encore moins du numéro 12 au numéro 13.
Bah, ça, c'est clair.
Alors là, on va plus rien comprendre.
Le numéro 13, hein.
Donc bon, des chiffres sans grosse surprise, hein, encore une fois, Marvel et DC dominent, DC principalement dominent d'ailleurs. Et en termes de progression sur l'année dernière, les ventes de comics continuent d'augmenter. On est en moyenne, en termes de dollars récoltés, à peu près 20% supplémentaires. En termes d'unités, à peu près à 15%. Hein, j'arrondis un petit peu au supérieur. Le plus intéressant, c'est surtout la progression des graphic novels, quand même, qui monte, qui monte, qui monte. Et on a un fait assez étonnant, c'est le Batman Earth One, qui est numéro 1 du top des graphic novels, pour le second mois consécutif.
Ce qui est énorme, étant donné que les ventes du mois dernier étaient absolument phénoménales. Ouais. Parce que le truc s'est vendu à plus de 32 000 exemplaires sur le seul réseau Diamond. Hein,
pour mais il faut savoir que c'est un juillet, donc cher. Il faut compter qu'il est super cher, c'est pas un TP.
Ouais, ouais.
Parce que quand on regarde le numéro 2, bon alors là en plus, le numéro 2 pour moi est une surprise encore, puisque c'est le premier TPB de Walking Dead.
C'est quasiment récurrent.
C'est l'effet série télé et tout, mais Batman Earth One, c'est grâce à justement au prix qui est assez élevé que DC est devant au niveau de l'argent pour ce mois-ci.
Oui, bah pas de beaucoup, hein.
Mais pas de beaucoup, mais ils sont devant Marvel au niveau argent.
Et c'est vrai que 22,99 quand même, être premier deux mois consécutifs en proposant un produit à 22,99, ça fait des rentrées d'argent monstrueuses quand même. Mm-hmm.
Bon, donc après, c'est pas étonnant que les annonces sur le Earth One, je pense, on va les avoir bientôt. Hein. Le prochain titre, c'est quasi inévitable maintenant.
Là encore, DC fait une bonne razzia, hein, dans les titres qui sont placés dans les 10 premiers du top des graphic novels, parce qu'on a Swamp Thing en 3e pour son premier TPB, Action Comics pour son premier hardcover, Batman pour son premier hardcover, et puis ensuite on a Hulk Season 1, Scott Pilgrim numéro 1 en couleur, la version...
Ouais, Fear Itself aussi en 10e.
Fear Itself en 10e,
ouais. C'est Nono qu'on a acheté je sais pas combien.
Et on a Star Wars.
Non, non, là, ça suffit.
On a un Star Wars de Clone Wars Sith Hunters qui se classe 8e, donc un produit Dark Horse 8e du top.
J'aime bien Dark Knight Titans quand même, qui est 15e. Effectivement.
Je pense que le Clone Wars, c'est un truc pour les enfants qui est pas très cher. C'est tiré de la série télé.
7,99, ouais. Peut-être, mais en tout cas, ça fait un titre Dark Horse qui se classe 7e, mais ça, c'est plutôt pas mal.
Bien fichu, ouais.
Parce que c'est vrai que depuis le relaunch, et à mon avis, les choses n'iront pas en s'améliorant avec le Marvel Now, les petits éditeurs souffrent sévèrement, là.
Ouais, bah, par Image, qui sort quand même beaucoup de bonnes choses. Et ouais. Qui, en termes de vente indépendante, ça se vend aussi bien.
Ouais, et pourtant, il y a aussi des très bonnes choses chez les autres, hein.
Ouais.
Mais bon, certains s'en sortent mieux que d'autres. Alors, est-ce une stratégie marketing, la stratégie marketing d'Image de proposer beaucoup, beaucoup de numéro 1?
Bah, je crois surtout que c'est la réputation maintenant de l'éditeur qui fait ça. C'est-à-dire que les gens vont naturellement voir Image comme le troisième éditeur. Et autant dans le mag Previews qui sert à précommander les comics, je pense que les gens enchaînent entre, ils font Marvel, DC, puis ils enchaînent sur Image pour voir un peu ce qui sort comme nouveauté. Et comme maintenant Vertigo ne sort plus grand-chose de nouveau, les gens pour avoir leur dose d'indé vont plutôt là.
Là où c'est marrant, c'est quand même que Image est troisième en termes d'unités vendues, mais en termes d'argent récolté, c'est IDW qui prend la troisième place, Image la quatrième. En fait, ils échangent.
Bah, le truc,
Image
c'est
vend plus de produits, mais à moins cher.
Ouais. Ouais.
C'est marrant. Ça. Et puis bon, Dark Horse, c'est cinquième. Au-delà, on a les classiques, hein, Dynamite, Boom, Valiant qui fait pas un énorme score en termes d'unités vendues.
Ben, ils ont pas beaucoup de titres aussi. Je crois qu'ils en manquent 2, 3, 4, quelque chose comme ça.
4 maintenant, ouais.
Voilà, 4. Et je trouve qu'ils s'en sortent très bien avec seulement 4 titres.
Oui, ah oui, bien sûr.
Voilà, sachant que les ventes pour un éditeur aussi indépendant sont bonnes. J'ai vu les chiffres pour certains des titres, c'est assez bon. Ça tourne entre 15 et 20 000 exemplaires, donc pour un indé, c'est très très bon.
On va passer maintenant à la deuxième partie de cette analyse des chiffres des ventes, avec notamment un très bon article sur Newsarama qui a été publié cette semaine, qui a fait un petit peu les calculs des progressions des titres DC depuis le relaunch. Alors, je vais vous expliquer comment ils ont calculé. Ils se sont basés par rapport au mois d'août 2011, mais n'ont pas pris que le mois d'août en considération, puisque bah, sachant qu'il y avait l'effet relaunch, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément acheté le dernier numéro parce qu'ils s'en foutaient. Donc ils ont pris une moyenne sur les 4 derniers mois, donc août, juillet, juin et mai, et ils ont fait la même chose pour les chiffres de 2012, et on peut voir que le relaunch a été plus que profitable pour DC. En termes de progression de vente, on a 4 titres qui se détachent énormément dans les progressions. On a Justice League qui a gagné 187% de vente.
Ouais, presque 3 fois plus, quoi.
Exactement.
Faut dire, la version de James Robinson se vendait pas de manière catastrophique, mais on était loin en fait du niveau qu'on pouvait attendre de la Justice League.
Oui, et puis mais une équipe comme Jeff Jones et Jim Lee, forcément que les gens vont acheter. Alors, les gens continuent d'acheter au numéro 12, c'est ça qui est intéressant à voir. Pour Batman, on a monté de 150% les ventes par rapport à 2011. Alors justement, c'est ça qui est très très drôle, puisque on se rend compte que Detective Comics a aussi augmenté de 121% par rapport à l'année dernière. Rappelons-nous que l'année dernière, Snyder était sur Detective Comics. Ouais. Actuellement, il est passé sur Batman. Alors, est-ce vraiment Snyder qui fait monter, ou est-ce que c'est le relaunch?
Bah, je crois que c'est un effet combiné. C'est-à-dire que déjà Snyder avait gagné une réputation très méritée avec son run sur Detective Comics. Le problème, c'est que ça s'est pas vendu de manière gigantesque. Et que le relaunch et le fait qu'il arrive sur Batman, ça a été une espèce d'effet loop sur son run. Et je pense que si au numéro 12, les ventes sont toujours aussi bonnes et extraordinairement stables, c'est grâce à la qualité du titre, en fait.
Je pense qu'aussi pour Detective Comics, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le dessin de Tony Daniel qui fait vraiment vendre.
Bah sinon le Dark Knight aussi ça se vendrait pas aussi bien malgré la piètre qualité du titre depuis un an.
On a aussi Batgirl qui a augmenté de 110%.
Ça c'est pas dur, hein. Ça se vendait à 20-25 000 exemplaires. Bon personnellement je préfère la précédente version parce que Barbara Gordon la nouvelle version c'est dark.
Je suis pas séduit moi pour le moment.
Ouais, je trouve qu'ils reprennent un peu leur rythme là maintenant, ça devient pas trop mal. Batgirl.
Après bon, je vais vous les citer en vitesse, hein. On a Action Comics qui a augmenté de 102%.
Là aussi c'est pas dur.
Teen Titans de 99%. Superman de 63%, Supergirl de 62%, Wonder Woman de 59%, Superboy de 43%, Batman et Robin augmentent de 21%, et là, c'est Green Lantern qui a augmenté seulement de 11%. Alors, ça peut paraître pas beaucoup quand on a des chiffres comme Justice League avec 187%, mais il faut penser que Green Lantern était toujours dans le haut du panier.
Ouais,
à chaque
ça
fois.
Se vendait super bien.
C'était déjà la meilleure vente de DC l'année dernière, donc ça n'a pas bougé. Quoi.
Donc, augmenter de 11% encore montre qu'ils ont vraiment gagné des lecteurs. Ou alors qu'il y a des gens qui les achètent en double. Je sais pas. Un pour lire, un pour collectionner. par contre, on a des pertes aussi, et ça c'est aussi intéressant de le voir, c'est que Green Lantern Corps a baissé de 24%.
Par rapport à l'année dernière. Explique ça très bien, c'est que en fait au même moment l'année dernière, il y avait le crossover Green War of the Green Lantern. Ouais. Donc du coup, ça boostait un peu les ventes par rapport au niveau naturel du titre.
Oui, mais voilà, mais bon, il a perdu 24% quand même sur parce que c'est quand même une moyenne sur 4 mois. Hein. Preuve que ce titre n'intéresse pas grand monde au final.
Bah je sais pas, c'est pas mal quand même. Hein. Enfin, moi
j'en lis plus quoi. J'en ai quelques-uns de retard. Il faut que je les rattrape, mais.
Ouais. C'est... Je pense qu'il va y avoir à nouveau le boost là avec le crossover.
Avec les deux sœurs d'Amy, ouais.
Ouais. Donc.
On a Green Arrow qui a perdu aussi 6% et la Legion of Super-Héros qui a perdu 10% par rapport à son à sa précédente incarnation en 2011.
Donc bah, genre, c'est ouais, quasiment ouais, compréhensible le truc. Hein, Legion Lost, moi j'ai rien capté au premier épisode et j'ai lâché. Hein, donc
Ah non, là je parle pas de Legion Lost, je parle de Legion of Super Heroes.
Ouais.
Mais c'est pareil.
Ouais. C'est là que la Légion, c'est extraordinairement difficile de rentrer dedans. Hein.
Legion Lost, il est plus simple d'accès, par contre.
Oui, je pense.
Oh putain, si c'est ça. Si Legion Lost est simple d'accès, alors Legion of Super Heroes.
Moi, si,
moi je suis Legion Lost et bah ça se suit bien, quoi. C'est comme un peu une nouvelle équipe de Teen Titans.
C'est plus simple déjà parce que c'est dans notre temps.
Personnages, c'est tout, quoi.
Vu que ça se passe à notre époque, c'est déjà obligatoirement plus facile d'accès.
Ouais. Attends, non mais tu te souviens du premier épisode de Legion Lost?
Ah bah bien sûr. Bien sûr.
Tu captes rien au personnage, ni leur motivation, ni ce qu'ils foutent là, ni ce qu'ils veulent, enfin
c'est faut lire le premier arc pour tout comprendre.
Mais disons que c'est je pense qu'en en fac on doit leur montrer cet épisode comme voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire.
Je crois qu'il y a eu pire quand même, comme numéro 1. Rappelle-toi au Kendo.
Là, c'est de Robbie Field, donc on s'en sert pour se torcher le cul. C'est...
Alors, il y a quand même aussi un élément qu'il faut prendre en compte dans cette progression de DC, c'est notamment la partie argent, parce que c'est bien beau de vendre un certain nombre de comics, mais il y a aussi le fait de vendre plus ou moins cher. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce slogan qu'avait fait Grand Bond à l'époque. Hein. Holding the line. Qui était donc, nous gardons tous nos titres à 2,99. Ça avait été mis en place en janvier 2011. Bah, c'est plus vraiment le cas, hein, depuis ce relaunch. Alors, lors du relaunch, on le savait, il y avait 3 titres qui seraient vendus à 3,99. Même 4, puisqu'il y avait Man of War aussi à l'époque. Qui étaient vendus à 3,99. Parce qu'ils contenaient des backups et qu'ils étaient plus gros. Ils faisaient plus de 20 pages. D'accord. Bon. Jusque là, tout va bien. Donc, on avait Justice League, Action Comics, Man of War et, All-Star Western. J'avais du mal à trouver le dernier. En revanche, là où DC se les jouait Marvel, c'est qu'il a monté le prix de plusieurs autres titres qui marchent bien, et notamment de Batman.
Bah, il y a des backups aussi.
Voilà. Ouais, mais honnêtement, les backups de Batman sont quand même moins gros que les backups que l'on a sur Justice League. Moi, ouais. Batman me paraît toujours moins gros qu'un Justice League.
Mmh.
Bon, par contre, on met plus longtemps à le lire, mais...
Oui, bah, c'est du Snyder, du texte.
Quand bien même. Et donc... Cette augmentation de 3,99, enfin de 2,99 à 3,99 en cours de route a provoqué une augmentation de dollars monstrueuse par rapport à l'année dernière où c'était encore à 2,99. Pour Batman, nous avons une augmentation de 234% en dollars. Nous sommes passés de environ 158 000 dollars par mois à 527 000 dollars par mois.
C'est grosso modo l'argent que je vais gagner durant toute ma vie.
$526,000, non, peut-être pas quand même.
Il y a peut-être un effet avec la sortie du film aussi quand même pour Batman.
C'est possible. C'est possible.
Ça a dû jouer un petit peu.
Mais je pense que, enfin, l'effet Batman a plus été sur
sur
Earth One. Ouais.
Sur le graphic novel.
Bah, si tu regardes le top 300 des ventes, t'as des titres Batman quasiment partout. Hein, niveau graphic novel, même des trucs classiques vendus à je sais pas combien, bah, comme Dark Knight Returns, hein, ça a été vendu à 4 milliards d'exemplaires et ça se vend toujours.
Puis il y a trois des meilleures progressions, c'est des titres Batman. Hein, et puis Batman est dans la Justice League, donc en fait...
Et voilà, et la Justice League, en termes de dollars engrangés, c'est quand même la plus forte progression, puisqu'on est à plus 283%. C'est-à-dire que la Justice League rapportait environ $133,000 par mois, elle en rapporte maintenant 510 000. Bah, bon, alors ça, savoir que le prix de que ça rapporte là, c'est le prix brut. Hein. On n'a pas il n'y a pas de déduit les coûts d'impression, les coûts des droits des auteurs, enfin tout ça. Là, c'est vraiment combien
ça
rapporte.
Il y a 50% dans la poche de Diamond.
Ouais. Puis du coup, ils ont acheté pas mal de champagne, je pense là, d'essai. Ça va leur faire une petite grève dans le budget.
Je sais pas vous, mais moi, un prix comme $500,000 brut, je trouve ça pas si énorme que ça.
Bah, par rapport à ce qu'ils vendaient il y a 20 ans, oui, c'est pas énorme.
Oui, bah oui, c'est sûr. Mais enfin voilà, on s'imagine qu'une franchise comme Batman rapporte des millions par mois. Bah pas forcément.
Bah avec
quoi.
Tous les titres réunis, oui.
Bah le oui. Film a un milliard, hein.
Oui, voilà, par exemple. notamment une dernière chose aussi avant qu'on change de sujet. Une chose intéressante à remarquer, c'est que en termes de progression, les mini-séries aussi se vendent très très mal chez DC. Ouais. Les gens se sont vraiment accrochés à la partie New 52 et ils préfèrent qu'on leur annonce un nouvel ongoing, même une merde, qui va durer 8 numéros et s'éclater la gueule comme Man of War par exemple. Mmh. Ils seront plus réceptifs à aller acheter ça qu'à aller acheter une mini-série. Toutes les mini-séries qui ont été lancées ont eu des chiffres de vente relativement faibles.
Ouais. Il y a même eu des craintes. En fait. Ouais. Il y a même eu des craintes à un moment pour la série de James Robinson. Savoir ouais, sur The Shade s'il allait pouvoir finir, parce qu'au début les ventes étaient vraiment très mauvaises quoi. Mmh. Yeah.
C'est marrant hein. Alors qu'ils auraient dit The Shade est une série régulière,
ah ouais, je pense
ça serait sûrement beaucoup plus vendu.
C'est marrant quand même hein, l'effet, parce que quand ils ont commencé les mini-séries dans les années 80, c'était quasiment une garantie de succès à chaque fois. Parce que le format était extraordinairement nouveau, donc les gens pensaient que c'était spécial et qu'il fallait les acheter absolument.
Ouais parce que pardon, excuse-moi, Kim.
Non, je disais, bah oui, c'est vrai que c'est le format auto-contenu où on a une histoire complète.
Ouais, je pense que les gens ont peur que le fait qu'il n'y ait que 4 épisodes, ça ne s'inscrive pas dans la continuité, que ça n'ait absolument aucun lien avec le reste et que bah si on la lit pas, c'est pas grave. Et si je vais pas acheter ça parce que bah ça sert à rien. Ce qui n'est pas forcément le cas, finalement. Enfin bon, je sais pas, c'est un...
Oui, c'est un modèle de comportement assez, c'est bizarre.
C'est assez nouveau comme comportement. Il faudra voir si ça se répercute aussi chez Marvel, ce genre de choses, ou si c'est vraiment propre à DC et sa ligne New 52.
Ben, ça serait intéressant de comparer l'année prochaine avec l'effet Marvel Now, voir si ce que ça a donné par rapport à DC et ses New 52.
Bah oui, parce que Marvel nous annonce aussi beaucoup de nouvelles séries régulières. Pour le moment, très peu de mini-séries, voire pas du tout, dans les prochains mois. Donc, bon. À voir, est-ce que là encore les prochaines mini-séries auront le tag Marvel Now ou resteront sans rien?
Ils ont annulé Thanos là, ils ont
exactement ouais. Ouais.
Bah ils ont coupé pas mal dans leurs coûts hein, Marvel. Ouais.
Ah bah ça fait mal hein, d'avoir un challenger digne de ce nom en face. Bon, bah on verra, enfin en tout cas c'est ce qui nous apporte
c'est positif pour nous lecteurs.
Voilà, c'est ce qui nous apporte le Marvel Now actuellement dont on va parler tout de suite d'ailleurs, c'est très belle transition. Hein. Vous avez vu ça, comme c'est magnifique. On continue donc avec le premier regard sur le line-up de Avengers, la série de Jonathan Hickman. Alors on a un triptyque de couverture qui, mis tout ensemble, nous permet de voir les différents membres. Alors à savoir qu'on nous a prévenu qu'il y aurait 18 membres une fois que les choses seront bien lancées. On les voit pas tous.
Non, là,
il nous reste encore quelques-uns à découvrir. Ouais, sachant qu'il y en a deux qui sont un petit peu difficiles à voir qui ils sont. Dans les plus gros
un.
Disons qu'il y en a un sur qui il y a eu un petit doute pendant un moment, et puis en fait, bon, c'est quand même relativement simple. Les plus grosses surprises, bon, on a les personnages classiques, hein, les Thor, Captain America, Iron Man, Hawkeye, Black Widow, Hulk, bien sûr, hein, les personnages.
Wolverine.
On a aussi Wolverine, Spider-Man.
Bon, Spider-Man, moi ça me gêne pas, parce que ça a été teasé pendant des années, qu'il l'intégrerait un jour dans les Avengers. Donc en fait, c'était la progression naturelle pour le personnage.
Oui, non, mais disons que c'est ce qu'on récupère de la précédente version et qui marche plutôt bien. Donc forcément, on va garder Wolverine et Spider-Man, ce sont deux gros vendeurs.
Par contre, ouais, mais par contre, moi, le Wolverine, ça me continue à me gonfler.
Ben, je sais pas, faudra voir s'il a un comportement différent et si ça se justifie un peu plus qu'il y soit.
Il sera peut-être plus dans X-Force, hein.
Oui, bon, on y reviendra tout à l'heure à X-Force, puisqu'on va en parler. Après tout, moi, je trouve que sa position se justifie un peu plus, puisqu'on a quand même des petits nouveaux qui vont intégrer les Avengers. Et là, ça a été quand même des surprises pour moi. On a Cannonball, Rocket en français, et Sunspot, qui doit être Solar, je crois, en français. Si je me rappelle bien mes comics des années 90. Un truc comme ça.
Donc on a une plus grande intégration du pôle mutant dans Bonne Ranger.
Voilà, mais c'est surtout qu'en plus en termes de mutants,
pas tant que ça, hein, parce qu'il y a plus Storm, il y a plus.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a été chercher deux membres des nouveaux mutants plutôt que des gros X-Men bien connus.
Ouais.
Donc bon, des petits nouveaux quoi pour la franchise Avengers. On a aussi Falcon qui fera partie intégrante du casting apparemment. Et ai-je oublié quelqu'un?
Bah, Hawkeye, Spider-Woman.
Oui, je l'avais cité tout à l'heure.
Captain Marvel.
Ah, Captain Marvel, voilà. Captain Marvel.
Avec son nouveau horrible costume et coiffure.
Alors, va-t-on avoir Captain Marvel dans les films Avengers après? Enfin, ça nous donne peut-être une petite idée sur les prochains membres du film aussi.
Mm. Donc, Et puis, on a ce membre. Entre Captain Marvel et Captain America.
Ouais.
On voit juste un symbole sur sa poitrine qui reste assez énigmatique. Alors, avez-vous des idées, des possibilités?
Je ne vois pas du tout.
Je sais pas. On dirait qu'il a des afros.
Alors bon, certaines rumeurs courent un petit peu comme ça sur le net. Certains pensent peut-être à un personnage des Eternals, ce qui serait quand même relativement étonnant.
Ouais. Bon, bref. Ça a déjà été fait, hein. Je pense. Moi, on avait un membre des Eternals dans les Avengers. Ça a été Circe, il me semble que c'était.
Ouais, Circe, ouais.
Qu'ils ont éjecté très vite parce que ça marchait pas.
On va aller rester quand même quelques temps. Hein. Mmh. Bon. On a quand même un casting de personnages relativement connus, avec quelques surprises. Il en reste encore à découvrir. J'attends de voir l'intégration moi de ces deux nouveaux mutants dans le grand bain finalement des Avengers. Quoi.
Ouais.
Et cette série, je l'attends beaucoup parce qu'on a aussi vu des premières pages dessinées par Jérôme Opeña et c'est juste sublime.
Ah, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique.
Donc là, je pense que ça va vraiment être un gros blockbuster.
Ça va être sublime
en plus. Donc là, j'ai vraiment envie de m'y mettre, moi, aux Avengers, classique 616, que je lisais pas avant, et...
Bah, c'est Bendis, donc lui fait bien.
Voilà.
Tu as le même effet Marvel que beaucoup de gens ont eu l'effet DC l'année dernière.
Mmh. Bah, pour certains titres, au moins, parce que là, vrai que Jérôme Opeña, j'ai beaucoup aimé dans X-Force, et là, ça a l'air d'être sur le même niveau, au niveau qualité, et...
Mais même sans qualité, au moins, ça t'intrigue un minimum pour aller voir, donc je pense que c'est le principal.
Oui, ça c'est sûr.
Le fait d'être intrigué un minimum et de vouloir aller voir ce que ça donne sur place. Donc ça c'est plutôt intéressant et je pense que pour moi Marvel est vraiment en train de gagner son coup là. Et il faudra surveiller les chiffres de vente du mois d'octobre. Je pense que DC il risque de manger un petit peu. Et surtout
pas vraiment octobre parce qu'il y a que Uncanny Avengers qui sort ce mois-là. Mais on l'annonce déjà à des niveaux de vente qui sont énormes, ahurissants.
Bah, soi-disant qu'il aurait dépassé les 300 000 commandes, je crois.
Voilà, oui, donc ça va être assez énorme, mais ça va surtout être à partir de novembre-décembre, parce que là, ça sera chaque semaine un nouveau titre. Donc, et j'ai l'impression qu'ils gardent les plus gros pour le début. C'est-à-dire qu'on va avoir Thor, Hulk, les Vengeurs, les All New X-Men, pour ces mois-là. Donc,
ouais. On va continuer avec justement les nouveaux teasers qui sont sortis cette semaine pour la deuxième vague.
Comment qu'on enchaîne ?
Ah ouais, non, mais on enchaîne bien et tout. Faut pas perdre trop de temps pour pas faire une émission trop longue. Alors, des teasers assez énigmatiques. On a un premier teaser, Daniel Way, Steve Dillon, Lightning, écrit avec une grosse cible dessus.
Donc ça m'intéresse pas.
Ça, c'est Thunderbolts.
Alors, il paraîtrait que ce serait sûrement les Thunderbolts. Ça coïnciderait avec le fait que dans la nouvelle série, pas si nouvelle que ça, mais la série Thunderbolts qui s'appelle maintenant Dark Avengers depuis 2-3 mois, il y aurait Jeff Parker a annoncé que les Thunderbolts arrêteraient de faire partie de cette série, arrêteraient d'y paraître. Donc, effectivement, ça pourrait coïncider avec une nouvelle série Thunderbolts. Rappelez-vous le slogan de l'époque, Justice Like Lightning, c'était le premier slogan des Thunderbolts quand c'est sorti juste après Unslaught. Faut voir.
C'est obligé que ce soit ça, la Lightning, Éclair et compagnie.
À moins que ce soit complètement autre chose. Une série solo sur Storm.
En tout cas, bien sûr. En tout cas, on sait que ce sera moche.
Steve Dillon a un style particulier.
C'est mon troll, mais je suis pas trop fan de Steve Dillon.
T'as le droit, hein, tu as vraiment le droit. On a un autre teaser aussi, Survive, éclaboussé de sang par Denis Oples et Kev Walker. Alors,
ça,
là.
C'est une série où on sait qu'il y aura pas Hope dedans, parce que c'est Oples qui écrit.
Il y a de l'humour! Il y a de la vanne!
Non, c'est naze.
Gagne un autre joke.
Ouais, alors, c'est vrai qu'il y a des rumeurs aussi, peut-être, de séries, une nouvelle série X-Force. Peut-être même plusieurs séries X-Force.
Moi, si je devais faire une supputation, ce serait peut-être une série un peu genre à façon Battle Royale, Hunger Games, comme ils ont fait, un truc avec des... où il faut qu'ils survivent dans un jeu, un truc comme ça. Comme ça marche bien en ce moment, ces trucs-là.
Ouais, enfin, je vois pas quel serait vraiment l'intérêt à long terme dans le Marvel.
Je sais pas, mais un concept un peu comme ça, ça a été repris récemment aussi par DC avec The Culling et tout. Enfin, c'est...
Ouais, enfin là, on nous vend quand même une série régulière, quoi.
Ouais, je sais pas, mais Survive, c'est bizarre.
Bon, Sam, tu en penses quoi?
Que j'en ai rien à battre.
Même Kev Walker, ouais, bof. Kev Walker ne t'intéresse pas?
Kev Walker, si, c'est un excellent dessinateur.
Ouais, mais... pour le dessinateur.
Franchement, non. Ouais, je pense qu'on va déjà avoir beaucoup de temps à passer sur les gros titres. Donc,
Eh ben, on va continuer avec Denis Oples, du coup, qui va aussi s'allier les services de La Roca pour un teaser qui s'appelle Wanted. Alors là, franchement, c'est la grosse interrogation. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? J'ai vu des rumeurs passer et ça me paraît peut-être plausible. Un retour de Iron Fist et Power Man, enfin Luke Cage.
Oui, pourquoi
Heroes for Hire. Puisqu'on a le jaune doré en bas et le blanc tout en haut, là, Iron Fist dans son costume blanc.
Et pourquoi pas justement les survivants de des Phoenix Five qui sont recherchés pour leur crime et
mais quel crime?
Moi j'y crois pas une seconde.
Non, je sais pas. Bon, d'accord.
Mais c'est enfin peut-être hein, mais moi pour moi ça me paraît bête, mais ce serait bête de faire une série là-dessus. Mais bon, surtout que bon, soi-disant, les séries sont faites pour durer plusieurs années, c'est prévu pour être des séries sur 2 ou 3 ans. Ça me paraît un concept assez difficile à mettre en place sur au moins 3 ans.
En tout cas, moi, je trouve assez malin, justement, de faire des teasers comme ça qui font s'interroger. Au moins, on peut faire des petites supputations.
Alors ça, bon...
C'est rigolo, moi, j'aime bien.
C'est aussi en décembre 2012, et puis là, on a un premier teaser pour janvier 2013, Sam Humphries et Ron Garney, sur un truc qui s'appellerait Killers. Alors là, encore une fois, peut-être un autre titre X-Force aussi.
En tout cas, Ron Garney, moi, ça, j'adore au niveau dessin, donc.
Ouais, moi pas vraiment.
Moi, j'aime bien. Et Sam Humphries, il était pas trop mal sur Ultimates, mais.
Ouais, bof.
C'est pas non plus excellent, mais. Ouais, je sais pas. Peut-être X-Force. Ah.
Bon, on aura les réponses cette semaine, puisque c'est cette semaine qu'ils vont dévoiler un petit peu plus de choses sur ces séries-là. Pour le moment, c'est vrai que là, ceux-ci sont vraiment énigmatiques. Autant les derniers, on les a vite percés à jour. Là, ceux-là, ça commence à être un peu plus dur. C'est le jeu. En même temps, on s'interroge, on se fait plein de suppositions. On sera peut-être déçu ou on sera peut-être surpris, au final.
J'annonce déjà qu'on sera déçu.
Quand on aura les révélations
de
ce que c'est.
Ce n'est qu'une technique marketing pour essayer de dire attention sur des titres qui vont durer 12 numéros, pas plus.
En tout cas, elle a le mérite de faire parler, puisque tout le monde s'interroge dessus pour le moment. Donc, ils ont réussi leur coup, marketingement parlant, ils ont réussi leur coup. Mm. Et nous, ça nous fait toujours un petit effet d'annonce, c'est plutôt sympathique aussi. Allez, on va...
Pour Marvel, là, en fait, il y a une petite news là, qui est sortie à l'instant sur Ultimate, avec la couverture du Ultimate 19, je crois, où on voit le Ultimate Iron Patriot, donc qui va être introduit sans doute dans l'univers Ultimate et que ce serait peut-être en fait Captain America qui prendrait le costume. Donc c'est assez mystérieux et ça serait peut-être en rapport avec justement ce fameux retournement de situation qu'il y aurait dans Divided We Fall. Donc voilà.
D'accord.
Voilà. En tant que fan Ultimate, il fallait bien que j'en parle.
Mais tu as bien fait, écoute.
Désolé d'avoir piraté ton conducteur.
Mais je t'en prie, c'est pas grave. C'était bien le bon moment pour le placer puisqu'après ça va être un peu plus dur.
Ouais.
On va continuer avec la Baltimore Comic Con. Pardon. La voix qui se barre en plein milieu. Sans montage, tant pis, ça reste avec. C'est pas grave. Donc la Baltimore Comic Con qui s'est tenue ce week-end et où l'on a annoncé les résultats des Eisner, des Harvey Awards. Alors Sam est énervé. Ouais. Il a hurlé son mécontentement. Oui, puisque Daredevil a encore fait un énorme carton, le Daredevil de Mark Waid. On va pas citer tout le monde, on va pas avoir le temps, parce qu'on est déjà en retard. C'est dingue, on est déjà en retard sur ce que j'avais prévu. C'est pas grave. On va parler du meilleur encreur, c'est Joe Rivera sur Daredevil. La meilleure nouvelle série Daredevil. Le meilleur talent, nouveau talent à suivre, c'est Sarah Piccelli pour Ultimate Spider-Man. Bah, vous avez aucune réaction, messieurs.
Bah, moi, je connaissais pas les Harvey Awards avant aujourd'hui, donc.
Puis quand on descend un prix à Fear Itself,
Ah ouais, déjà ça. Ah.
Le meilleur lecteur, Fear Itself, non.
Il y avait personne de chez DC, presque. Je crois, il y a juste, J.H. Williams 3 qui a dû avoir quelque chose pour Batman.
Attends, Fear Itself, c'était juste Chris Eliopoulos sur le lettrage.
C'est oui, pas pour, même le lettrage, non.
Non, je sais pas, j'ai pas fait attention, honnêtement, au lettrage de Fear Itself. Est-ce qu'il est vraiment bien? Je ne sais pas. Je fais pas vraiment attention au lettrage en règle générale.
Et est-ce qu'il y a le meilleur site de comics, c'est Comic City?
Alors, non, il y a pas, mais je vais continuer dans l'ordre, sinon je vais me perdre. Le meilleur cover artiste, J.H. Williams pour Batwoman.
Ouais, ça c'est bien.
Il y a quand même du DC, un tout petit peu. Mmh. La meilleure présentation, l'award pour l'excellence de la présentation, c'est le truc de chez IDW, le Walt Simonson's Mighty Thor Artist Edition, qui est un énorme bouquin qui reprend tous les Walt Simonson, enfin tout ce que Walt Simonson a fait sur Thor en noir et blanc et tout, c'est vachement bien comme bouquin ça.
Ah c'est les Artist Edition, c'est des super bouquins quoi.
On a aussi le Jim Henson's Tale of Sand qui a encore gagné des prix. J'arrête pas de le voir nommé dans plein de catégories. Il a gagné le Best Graphic Album Original plus un autre truc un peu plus bas que j'arrive pas à retrouver. Je crois qu'il va vraiment falloir que je me procure ce truc parce que j'en entends parler combien il gagne un max de prix. Je sais pas si vous connaissiez, vous.
Du tout.
D'accord, bon c'est pas grave. Alors, je me prends des vents aujourd'hui. Meilleure série, qu'elle soit limitée ou ongoing, Daredevil.
Oui, donc Good Shot.
Meilleur scénariste, Mark Waid pour Daredevil.
Good Shot.
Non, Sam, c'est toi qui n'as pas compris Daredevil, c'est tout. meilleur artiste tout court, c'est J.H. Williams pour Batwoman. Et voilà, le meilleur histoire ou le meilleur numéro, c'est encore le Tale of Sand de Jim Henson. Bon, des awards qui sont assez proches de ce qu'on a pu voir aux Eisner, encore une fois. Daredevil remporte cette fois-ci 4 awards. Je sais que ça m'est désespéré.
Ouais.
Kinyat, toi, tu lis pas toujours Daredevil?
Non, j'achète en français, j'ai pas encore commencé à lire
C'est pas bien.
Je les ai mis de côté.
C'est pas bien. Bon, on va faire un rapide tour. Vous me simplifiez pas la tâche cette semaine, franchement.
Non, on n'a pas les mêmes goûts que toi.
Vous avez vraiment décidé de me pourrir la semaine. Oui, enfin, de la semaine. De weekly.
Ouais, le meilleur matériel étranger, c'est Manara. Donc, ils aiment bien les trucs de cul.
Non. Mais tout le monde aime Manara.
Ouais, oh, c'est pas ma tasse de thé, moi. Mais bon.
Ouais, je suis pas trop fan non plus au niveau des dessins. Elles se ressemblent toutes, les fiches.
Ça c'est une critique contre à peu près tous les dessinateurs, hein, qui est valable.
On va passer maintenant aux petites annonces qui ont été faites. Alors on les commentera peut-être pas toutes, hein, on va les donner assez rapidement, et puis n'hésitez pas vous à commenter dans les commentaires, hein, sur l'article, c'est bien, ça fait pas de répétition du tout. Dites-nous ce que vous en pensez, donnez-nous vous aussi vos suppositions et vos autres ressentis par rapport à ces petites annonces. Il n'y a plus d'anti-monitor.
En forêt de
Dodnidio. Comment?
Je dirais en forêt de Dodnidio.
Alors, X-23 apparaîtra dans une série Marvel Now qui sera bientôt annoncée.
Mais il y a intérêt.
Alors peut-être est-ce la série Survive? Sait-on jamais? Mm. Tim Drake s'est appelé Red Robin dès le départ. Et ce, pour ne pas être confondu avec Jason Todd.
En forêt de Dodnidio.
King Ed, toujours pas de réaction?
Non, mais bon, je suis pas étonné. Étonné.
Ok. Valiant va relancer Eternal Warrior.
En forêt de Dandidio.
Il y aura un nouveau et de possible titre X-Force, possible au pluriel.
En forêt de Dandidio.
Peut-être en rapport avec les Marvel Now aussi. Là.
Effectivement. Ron Mars et Jamal Igle vont lancer un nouveau projet ensemble.
Ouais.
Vous vous en foutez, d'accord. Alors Bob Wayne, ça c'est assez intéressant. Bob Wayne a éludé la question concernant la série Man of Steel de Geoff Johns et Jim Lee.
Ouais. Après, ça intérêt de vrai. Hein,
ça, que... ça va se faire, ça va se faire.
Et du projet Wildcats. Il a éludé complètement la question. Bon. Bah oui, donc il y a de fortes chances que ce soit vrai, hein. Je dis comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a aussi Mark Waid qui a dit que les premiers vilains qu'il opposerait à Hulk dans sa nouvelle série Indestructible Hulk seront des vilains qu'on n'a pas l'habitude de voir au casting de Hulk. Un petit peu la même chose qu'il nous avait fait sur Daredevil.
Comme d'habitude, quoi.
Bah, en tout cas, ça marche bien.
Oui. Ça, je pense qu'on aura Claw, hein, de toute façon, parce que là où il le met dans à peu près toutes ses séries.
Et on aura la réponse aussi que l'image qu'on en a vue et qui nous a fait parler la semaine dernière, le cyclope lobotomisé, on aura la réponse la semaine prochaine.
Ce
dans
n'est
le
pas Avex. Cyclope, putain de bordel de merde.
On aura cette réponse dans le prochain AVX qui sort la semaine prochaine, enfin qui sort cette semaine.
Ok.
Bon, bah on verra. Moi je pense que c'est Cyclope, hein, Sam.
Non.
On continue, hein. Il y en a encore quelques autres, et là ça peut être un peu plus intéressant, ça serait être un peu plus sur DC. Starro fera une apparition dans le crossover Rot World.
Ah, c'est pas très étonnant parce qu'on sait qu'il est déjà apparu dans les New 52 puisqu'il est sur la couverture du livre de David Graves. Donc
Putain, quel observateur,
n'est-ce pas?
L'œil de lynx. oui, alors c'est un truc assez sympa à voir. Didio a expliqué que quand les New 52 ont démarré, ils avaient demandé aux auteurs d'écrire comme s'ils écrivaient des fanfictions.
Ouais, voilà, ça, l'idée, c'est faire plaisir aux fans, quoi. Surtout ça, quoi.
Ouais.
Ils
et ben, finir. Ça a l'air de marcher.
Ouais. Bah ouais, c'est ça. Ouais.
Voilà.
Et du coup, effacer l'anti-moniteur, c'est peut-être pas une bonne idée, quand même.
Ça pose encore plus de problèmes de continuité. Ah bah si, clairement. Si.
Non, mais ça confirme le fait que les choses se sont passées différemment et qu'il y a des choses qui sont communes et d'autres qui sont différentes.
Bah oui, déjà, Blackest Night, on sait pas comment ça arrive, et du coup.
Bah ça s'est passé différemment.
Oui, mais sans autre moniteur.
On sait qu'il y a Necron, on sait qu'il y a d'autres trucs. Mais moi je vous dis que chaque année, ils vont nous faire des mini-séries qui vont reprendre les grands événements et les réinterpréter façon New 52. Ça va se vendre comme
des pains. Mais ça marchera pas. Ils en feront une et puis ça marchera pas, c'est des mini-séries.
Mais non, mais si c'est par exemple le Blackest Night New 52, ça va se vendre.
Non, mais ils vont lancer une série régulière Crisis, qui expliquera chaque mois.
Ouais, ou voilà, pourquoi pas, ou un truc qui permet
de créer en même temps une nouvelle erreur de continuité.
Bah, tout en créant la nouvelle continuité New 52, où ils expliqueront ce qui s'est passé pendant ces 5 ans, mais
je pense que c'est une façon
de refaire les histoires un petit peu différentes et...
Moi, j'y attends de voir.
DC. Ça ne s'arrête jamais.
Attendons de voir la fin de Trinity War déjà, si on sera encore dans l'univers des New 52. Parce que là, rien de sûr encore de ce côté-là. Rappelez-vous cette rencontre entre Phantom Stranger et Pandora, qui se rappellent tous les deux de l'ancien monde.
Surtout que...
Oui, nous aussi, on se rappelle de l'ancien monde.
Surtout que, transition parfaite, il parle peut-être de faire un lien dès qu'on sera sur Action Comics numéro 1000 ou Detective Comics numéro 1000.
Oui, voilà. Enfin,
quelque chose qui sera fait.
En tout cas, pas forcément un lien, mais marquer l'événement du 1000ème Action Comics et du 1000ème Detective Comics. Puisque c'est Danny Dio expliquait aussi pendant cette convention qu'à l'époque, lui pensait relancer tout sauf ces deux titres-là. Et tout le monde lui a dit non, il faut avoir les couilles, il faut le relancer, sinon personne nous prendra au sérieux. Chose qu'il a fait, mais ils n'oublieront pas, quand ils arriveront à l'équivalent du 1000ème numéro, de fêter l'événement. C'est vrai que 1000 numéros...
Bah c'est important, ouais.
C'est important, quoi. On a aussi appris que les Black Lanterns n'étaient pas connectés au ROT.
Ouais, très bien.
Bah, ils auraient pu.
Ouais logique, non, mais pour moi c'est plus cosmique quand même, c'est plus le lien avec les anneaux et tout.
Oui, mais enfin
c'est moins le truc terrien.
Oui, mais enfin en lisant Animal Man et Swamp Thing, tu te rends compte que c'est pas forcément lié uniquement à la Terre, la planète,
ouais.
Quoi.
Ouais.
Ce sont véritablement des forces qui sont au-delà de la simple Terre.
Bon, faut que je les lise.
Donc ça aurait très bien pu être connecté, ça aurait été logique. Mais bon. Voilà un petit peu les annonces, et puis oui, le Greg Capullo qui a montré à quelques personnes des images de son nouveau look du Joker.
Et ce qu'on peut dire, c'est que comme d'habitude, c'est vrai que les conférences DC sont toujours très sympathiques, ils répondent à beaucoup de questions, Et c'était comme à la capo, là, c'était vraiment un bon moment, et ils éludent pas trop de trucs, et ils s'amusent à donner pas mal de petits teasers, donc c'est bien, ça fait commenter. Moi, j'aime bien.
Ça fait commenter les commentateurs.
Voilà, c'est ça.
Pour terminer, un petit truc assez c'est marrant. Pendant le panel Marvel, ils ont eu un petit problème audio-vidéo, et Mark Waid leur a prêté sa tablette ou son portable, je ne sais plus, enfin son ordinateur portable, pour le brancher, pour avoir une source à retransmettre sur l'écran. Et pendant quelques secondes est apparue la liste des comics DC qu'il a téléchargé. Et c'est assez drôle puisqu'on voit qu'il a téléchargé pas mal de petits trucs, des choses assez sympathiques, hein, des choses comme Animal Man, Batwing, Swamp Thing, Phantom Stranger. Il a fait une petite blague en disant que Phantom Stranger était la pire bouse qu'il avait jamais lue.
Ce qui a dû faire plaisir à Dan Didio derrière.
Et le truc c'est que voilà, bon, il s'est repris à la fin de la convention, il a dit voilà, c'était une blague, au cas où les gens n'auraient pas compris, c'était juste une blague, c'était pas très professionnel de ma part de dire ça, même en plaisantant. Mais selon son Blinigoul, en tout cas, ça fait rire Dan Didio. Mmh. Donc bon voilà, il n'y a pas de mésentente.
De toute façon, Dan Didio il s'en fout tant que Mark Waid il achète des comics DC, ça va.
Ouais, c'est ça.
oui, il les achète.
Ouais, voilà.
Mais bon, c'est voilà, c'était marrant de voir que Mark Waid lit quand même du DC, même s'il travaille chez Marvel. Mmh. Et qu'il ne travaille pas chez DC actuellement. Avant de passer à la partie Screenews, on va faire une petite news qui va faire le pont entre les deux. On avait parlé tout récemment dans le spécial série numéro 2 des comics Dexter, que Sam nous avait rappelé gentiment que ça avait déjà été annoncé depuis 2011.
Il y en a qui ont de la mémoire ici, non mais
complètement oublié. Et ben là, on a appris que ça allait sortir en octobre. Et ben non, en fait, c'est repoussé à janvier. Donc toujours Dalibor Tadjadjic qui va faire les dessins. Mais pour le moment, aucun visuel n'a été montré. Et voilà, ça a été repoussé. Bon.
Bah, c'est un peu dommage, puisque ça aurait été bien que ça commence en même temps que la reprise de la série, là, à la fin du mois. Donc,
bon. Ça aurait été une bonne chose, effectivement. Ouais. Allez, on passe à la partie Screen News, véritablement cette fois-ci, avec la grosse annonce de la semaine, la CW qui préparait un projet Wonder Woman. Après l'échec, il y a deux saisons, de la série Wonder Woman, normalement développée par David O'Kelley, où NBC n'avait pas donné de suite. Finalement, CW essaye de récupérer les droits pour faire une série un petit peu la mode Arrow.
Mmh. Bah, la Smallville, en fait.
Oui, aussi. Alors, on parle d'une jeunesse, peut-être, de Wonder Woman.
Sur l'île des Amazones.
Oui, mais non.
Voilà. Alors, le truc, c'est que le script qui est disponible actuellement, enfin, qui a été écrit actuellement, a été écrit par Alan Heidberg. Alan Heidberg avait écrit le début du 4e volume de ce Wonder Woman, enfin le dernier avant le relaunch, quoi, qui date de 2006, je crois, un truc comme ça.
C'est ça. C'était juste après Infinite Crisis.
Ouais. Ouais, c'est ça. Et bon, Alan Berg a aussi travaillé sur Grey's Anatomy.
Mm-hmm.
J'adore la réaction.
C'est vraiment de la référence. Hein.
C'est pour nous faire la love story entre Wonder Woman et Steve Trevor quand il va atterrir sur l'île des Amazones et la ramener aux États-Unis, quoi.
En tout cas, bon, le fait qu'il ait bossé sur Grey's Anatomy, il a aussi bossé sur Gilmore Girls, mais le fait de montrer qu'il a bossé sur Grey's Anatomy, c'est comme qu'il a bossé sur une série à grand succès, hein, on peut pas le nier, et que donc il a quand même un minimum d'habitude des séries et de l'écriture pour les séries.
Oui,
et
puis bon, il a travaillé sur les comics, donc ça fait.
Normalement, il devrait avoir un minimum de références pour les vrais fans de comics. Et pas écrit par n'importe qui. Alors on verra, bon, le script est en cours d'écriture, il n'y a rien de tourné pour le moment, rien d'officiel. Mais avec l'annonce de Shield, il y a deux semaines maintenant, je pense que DC est en train d'essayer de s'activer pour récupérer un peu le marché de la série télé, puisque Marvel ne s'y était pas trop lancé jusqu'à présent. Il s'y lance avec le concours de Joss Whedon qui a rapporté énormément d'argent. Voilà, ils sentent la seule dernière chose qui leur restait, parce que les films c'est pas vraiment ça, il est en train de leur échapper finalement.
Moi je suis pour si l'interprète de cette Wonder Woman dans la série télé, ce sera celle qui sera dans le film Justice League et qui commence à faire justement une sorte d'univers étendu qui irait des séries jusqu'au film.
Ça dépend, si c'est véritablement la jeunesse de Wonder Woman que l'on voit, ça va être difficile à expliquer qu'on ait une actrice qui joue la jeunesse de Wonder Woman.
Mais sa jeunesse, ce serait super chiant quoi. Enfin, je veux dire, Wonder Woman, ben oui. C'est super intéressant à partir du moment où justement il y a Steve Trevor qui arrive et qu'après elle devient une super-héroïne, quoi. Parce
alors, qu'avant, elle n'est pas. Bien sûr, hein, pour la jeunesse. Mais c'est vrai que c'est une des rues impossibles avec la CW. On connaît leur cible. Enfin, ça m'étonnerait qu'on ait quand même une adulte d'une trentaine d'années qui se balade dans les rues, quoi. Enfin, ça correspond pas à la cible adolescente de CW.
Sinon, ils vont refaire Xena, quoi. C'est le truc sur l'île des Amazones avec les monstres mythologiques et compagnie. Ça va être un peu naze.
Ben, il y a des chances, hein.
Bon, en tout cas,
je ne sais pas. À mon avis, ce projet ne verra jamais le jour.
Mmh. On verra bien.
Je pense aussi.
Enfin, ça va dépendre.
Ils sont tellement largués que ça en devient pitoyable.
Je pense que ça va surtout dépendre aussi du succès de Arrow, tout simplement.
Oui, ça c'est sûr.
On continue avec les films chez DC et des rumeurs qui se font un peu plus présentes cette semaine sur Lobo, un film Lobo.
Oui. Bah oui, c'est le film que tout le monde attend. Mmh. Ah non, ça
on n'est pas du tout désespéré.
Non, mais enfin, bon, Lobo est un personnage sympathique. Il y a de quoi faire un masque version spatiale. Mais est-ce franchement ce que les gens attendent?
Ce qu'ils ont annoncé en plus au niveau du synopsis, ce serait une histoire qui se passerait sur Terre en plus. Donc ça enlèverait un peu le côté space opéra, dauphin de l'espace et compagnie, quoi. Donc c'est un peu dommage.
Non mais on a compris. Il faut envoyer nos cachets de Valium à Warner Bros, hein, parce que.
Alors, faut savoir quand même que Guy Ritchie travaillait sur le film depuis longtemps, mais est parti hein, depuis un petit moment maintenant. Et on a pas mal de gens, parce que c'est un projet qui est dans les tuyaux depuis très longtemps, qu'ils ont l'air de vouloir ressusciter. Et il y aurait même des rumeurs comme quoi Lobo pourrait apparaître dans le film Justice League, qui n'est même pas encore lancé, qui n'a même toujours pas encore de réalisateur.
Pas vraiment de scénario non plus. Ils ont un début de scénario.
Bon, ça fait beaucoup de rumeurs. J'ai l'impression qu'ils essayent de balancer vraiment plein de trucs pour contrecarrer les annonces que sont en train de faire Marvel en ce moment au niveau du cinéma.
Mais là, ils sont complètement bouffés. Hein.
Ça prend pas. Ouais, non, ça prend pas. Qu'ils s'en tiennent au film d'animation, c'est ce qu'ils savent faire.
Surtout quand tu vois les petites rumeurs qui tombent chez Marvel, dont tu vas parler maintenant, que tout de suite, ça intéresse plus, quoi.
Ouais. Oui. Je t'en prie, Kinghead.
Y a des rumeurs comme quoi on aurait peut-être une apparition du Doctor Strange dans Thor 2. Donc, ce qui serait vraiment malin, comme on sait que le film sera quand même pas mal tourné sur la magie avec les différents mondes. Autour des autres mondes autour d'Asgard avec Yggdrasil et compagnie. Donc pourquoi pas quoi, enfin ce serait une bonne idée d'introduire un personnage magique dans l'univers de Thor.
Ouais, bah ouais, moi je suis d'accord. Après est-ce que c'est une ouverture pour avoir un casting plus proche encore du casting de New Avengers?
Peut-être. Mais si ça permet oui d'avoir Doctor Strange dans les Avengers, ce serait sympa quoi, ce serait le côté magique avec les autres grosses boues brutes, ce serait sympa, quoi.
Une idée pour vous de qui pourrait l'interpréter?
Là, moi qui regardais Eureka, là, le gars qui joue Stark dans Eureka.
Ah, il ferait un bon Doctor Strange, effectivement.
Ouais.
Mm. Ouais. Je suis entièrement d'accord. C'était très, très bon choix, Kinghead.
Voilà, on va leur envoyer un mail.
Peut-être que ce monsieur ne voudra pas se compromettre dans ce genre de production, on va savoir. Pour certains, hein, les films de super-héros restent encore de la sous-culture.
Ouais, surtout quand on voit que plus d'un milliard.
Un milliard et demi pour Avengers en mai, un milliard pour Dark Knight en juillet.
Bon. Elle est bien la sous-culture, hein.
Ouais, c'est bien.
Attends, merde la sous-culture. on termine la partie Screen News avec une annonce qu'a fait Marvel puisqu'ils sortent leur nouveau jeu sur iOS, qui s'appelle Avengers Initiative. C'est un titre que je connais. Du coup, ils ont annoncé qu'ils ont envie de faire un univers de jeux vidéo complètement interconnecté, puisque ce jeu Avengers Initiative est connecté au jeu que l'on a sur Facebook. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, vous, ou pas, le fait d'avoir un univers connecté de jeux vidéo?
Pas du tout, parce que moi je suis allergique aux jeux Facebook, genre Cityville et compagnie, moi ça m'intéresse pas. Après, pour moi, les vrais jeux vidéo, c'est sur console, donc...
Ah non, non monsieur, alors là je ne suis pas d'accord. Moi les vrais jeux vidéo sont sur PC.
Ouais mais non, mais on sera pas d'accord. Mais je vais me faire bâcher par plein de fans de PC, mais moi je joue que sur console. Okay.
Ouais, enfin, je sais pas, moi je trouve ça assez étrange. Est-ce que finalement le fait, parce qu'ils ont essayé de mettre en place toute une petite histoire, est-ce que ces deux jeux vidéo seraient déjà un proto-univers par rapport à ce futur MMO qui va sortir, puisqu'ils veulent que tous leurs jeux soient interconnectés?
Ouais, mais l'interconnexion, si compris, c'est toujours une bonne idée. Hein.
Si j'ai bien compris, c'est pas vraiment un MMO en fait qu'ils vont faire. C'est plus un Diablo-like qui se joue en multi. C'est pas, tu n'auras pas 50 000 super-héros dans un même univers comme dans DC Universe Online. Ce sera plus des instances à 4 ou 5.
Bah, plus proche de Guild Wars.
Ouais, voilà, c'est ça.
Peut-être. Ou de Dungeon Crawler, je crois que ça s'appelait.
Mais moi, ça m'intéresse pas du tout, moi, ces jeux-là. Moi, je veux un Marvel vs Capcom 4.
Sait-on jamais, ça pourra peut-être être une très très bonne surprise. On va terminer, à moins que Sam tu aies une pensée là-dessus, peut-être.
Non.
Il a arrêté les jeux vidéo en 95.
Oui, mais ouais. Ça n'empêche pas d'avoir un avis.
Je sais pas, j'ai essayé le jeu Avengers sur Facebook pendant environ une demi-seconde. Ça m'a très vite lassé.
Ah non, c'est nul. Allez, on va passer très rapidement au badge de la semaine. Je vais commencer. Le badge de la semaine pour moi, en termes d'univers geek, ce sera les rumeurs sur le prochain titre du numéro 2 de Star Trek par J.J. Abrams.
Ah hein, oh non, c'est très bien ça.
Qui s'appellerait donc Star Trek Into the Darkness.
Oh, ça le fait trop quoi.
Et alors, pourquoi tu t'offusques?
C'est soi,
mais c'est nul. C'est nul. Je veux dire, Star Trek Into the Darkness, ça ne veut rien dire déjà.
Mais si.
Ben si, ils vont dans le darkness, ils vont dans le fond de l'espace, oui. Là où c'est tout sombre.
Je veux dire, quand t'entends un titre comme Star Trek de Wrath of Khan, déjà ça le fait quoi. Mais Star Trek Into the Darkness, mais je veux dire voilà quoi, ça correspond pas avec l'univers de Star Trek. Je suis désolé. Non, franchement, c'est on peut pas faire plus pourri comme titre. Donc j'espère que ce n'est qu'un titre de travail et que ça va vite changer.
On sent le trekkie là qui est.
Non mais vous auditeurs, vous aussi, si vous trouvez que ce titre est nul, manifestez-vous.
Moi je trouve très bien. Et d'ailleurs j'ai adoré le premier film.
Oui mais ça.
Je trouve ça pas mal de faire un crossover avec l'univers Darkness des comics. Quand t'as le vaisseau qui rentre dans Darkness.
Sam, ton badge de la semaine.
Alors moi ça concernera les rumeurs sur le DVD Blu-ray de Dark Knight Rises. Donc normalement il sort fin novembre, début décembre, ben partout. Sauf qu'il y a une sale rumeur de salopard d'enculé de streamer qui est en train de circuler. Comment ça me gonfle, mais sérieusement.
Je vais peut-être être obligé de biper là en fait.
Non, tu bipes rien, parce que c'est vraiment des enculés de sa mère.
ça remontera jamais jusqu'à leurs oreilles de toute façon.
Ah là c'est le vrai bâche.
Il y a une rumeur selon laquelle Christopher Nolan aurait coupé environ une demi-heure du film. Et Warner Bros. Ressortirait la version Director's Cut avec ses 30 minutes, mais au moment de la sortie de Man of Steel. Donc en gros, on aurait la sortie du film tel qu'on l'a vu au cinéma en novembre, et la version Director's Cut 6 mois plus tard. Et donc bien, ça, Sam, c'est ce que j'appelle des gros enculés.
Sam, il suffit de faire une chose, de patienter un peu.
Non!
Ils ont fait la même chose avec Le Seigneur des Anneaux. Avec la version ciné et après la version Director's Cut qui est sortie plus tard. Moi, j'ai patienté.
Est-ce que je peux être mauvaise langue?
Vas-y.
À mon avis, ça, si ça s'avère être vrai, si la rumeur... parce que on a le temps d'avoir des certitudes, parce qu'il est prévu pour novembre, hein, je crois, la véritable sortie, la première sortie en tout cas.
Oui,
fin novembre, décembre.
À mon avis, ça va encourager le piratage total du DVD ou du Blu-ray. Hein. Les gens attendront l'édition avec les scènes supplémentaires et n'achèteront pas le premier. Et le téléchargeront allègrement sur le net.
De toute façon, ils vont pas confirmer la Director's Cut avant janvier, par exemple.
Ouais. Donc ça, c'est ce que j'appelle des méthodes d'enculé. Voilà.
On verra si c'est confirmé ou non, mais il y a des chances que ça fuite relativement vite.
Si Director's Cut il y a, moi je suis prêt à attendre et je serais content d'avoir ces 30 minutes en plus.
Parce que je pourrais pas attendre, donc du coup, il faudra que j'achète les deux.
Bah tu me prêteras le Blu-ray, le tien. Comme ça, j'attends.
T'achètes la première édition et puis au moment de la sortie de la deuxième, tu refourgues le tien à moins cher en occasion sur un site quelconque. Voilà.
J'aurais quand même dans le cul. Hein.
Sauf si tu as déjà usé ton Blu-ray de l'avoir maté et rematé et rematé.
Ouais, tu feras sans doute comme Avengers, c'est-à-dire tu vas le regarder tous les jours pendant 3 semaines. C'est bon, ouais. Il sera usé.
Allez, on termine avec la partie Comics.com. Parce que Kinghead n'a pas de bash cette semaine.
Non, pas de bash, parfait.
Kinghead. Non, il est heureux cette semaine.
Je vais faire un bash à sa place, du coup. Les Wouzou de DC, les nouveaux Wouzou, je trouve ça dégueulasse.
Oh, mais non, t'as pas le droit.
Reportez-vous au dernier Comics Weekly, pardon, le numéro 111. Ouais. 110?
Non, 111.
111, je sais même plus les numéros, tu vois. Où on parle des Wouzou qui ont été faits dans les premiers numéros.
Les Wouzou des New 52. Voilà.
Oui, non, mais bon, c'est le badge de Kinghead, hein.
Non, non, c'est pas mon badge.
Allez, on termine avec Comics.com, la partie où l'on revient un petit peu sur les réactions que vous avez eues la semaine dernière par rapport à l'émission. Déjà, vous nous avez encore envoyé des mails, vous avez laissé des commentaires, et ça nous fait toujours très 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 plaisir, vraiment.
Oui, merci. Merci, on vous adore.
Et vous avez répondu un petit peu à ce truc qui arrive un petit peu par hasard de Kickstarter, en fait, où on proposait peut-être de financer le site comme ça, par un projet de ce type-là. Alors, pas forcément Kickstarter, hein, les solutions sont ouvertes, peut-être des dons PayPal, je ne sais pas.
Et parce que The Guest m'avait précisé, moi je savais pas que ça, on pouvait pas utiliser Kickstarter pour un projet français en plus.
D'accord, bon, il existe peut-être des équivalents Kickstarter. Et
il avait parlé d'équivalent, je sais plus, Oulu, je sais pas quoi.
Oulu, ouais.
Ou je sais plus quoi.
Mais non, pas Oulu. Non, Oulu, c'est un site de vidéo, je crois.
Non, je sais plus ce que c'était, ce qui est...
Ah oui, alors du coup, effectivement, il y a de la réponse et vous seriez partant pour nous aider financièrement à notamment améliorer le serveur et puis ce genre de projet qui pourrait nous aider à améliorer un peu le matériel. Pour le moment, on n'a rien défini, mais vu qu'il y a de la réponse et que vous seriez prêt à faire un geste pour nous, on mettra peut-être ça en place, je ne sais pas quand, dans un avenir plus ou moins proche. Mais voilà, en tout cas, on a retenu... Ulule. Ulule, apparemment. Ulule. Merci Kinghead. Du coup, voilà, on mettra ça peut-être en place. Non, on mettra ça sûrement d'ailleurs en place dans un avenir plus ou moins proche. Mais en tout cas, merci de vouloir nous apporter votre soutien. Là encore, ça aussi c'est quelque chose qui nous fait vraiment chaud au cœur de voir que vous nous appréciez au point de vouloir nous aider financièrement. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Je trouve même pas le mot en français, enfin ça nous fait vraiment chaud au cœur et ça nous fait une énorme récompense de savoir que vous êtes prêt à mettre un petit peu la main à la poche pour nous aider.
Ça signifie beaucoup.
Ça faisait plaisir de voir tous ces messages, en tout cas d'encouragement, ça c'est clair.
Donc merci à vous. On va se retrouver maintenant la semaine prochaine pour une prochaine salve de news dans le prochain Weekly News qui sortira mardi. Et puis bien sûr, d'ici là, vous aurez samedi le Comics Weekly. Et puis, comme d'habitude, entre-temps, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, @ComicCity, nous envoyer des mails, l'adresse est podcast@comiccity.fr, retrouver tous les anciens épisodes sur iTunes, et bien sûr, n'hésitez pas à passer sur le site www.comiccity.fr pour trouver tous les articles, les guides top de Sam, les reviews, les news de Corwin, puisque même il n'y a pas des news, il y en a aussi dans la semaine, hein, pas que pendant les weekly news, et puis bien sûr plein d'autres choses encore. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.
Ouais, portez-vous bien tous les gens.
À bientôt.